Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Ah Vincent, c'est un peu comme une comédie à suivre. Tu nous parlais il y a à peu près une demi-heure de l'action de GameStop qui avait monté follement durant l'après-midi encore.
Oui, et ça s'est poursuivi tantôt. Écoute, ça a atteint l'action de GameStop brièvement là, 180 $ US. Je vous rappelle
ça, c'est dans ce qu'on appelle l'aftermarket, donc la vente après les heures. Là.
Tout à fait. Et je vous dis, rappelle que plus tôt aujourd'hui, à 14h30, là, c'était à 48 $. Là. On est vendu à 180.
À 180, puis là, ça retombe.
Ben là, c'est redescendu, mais à 150 $ US. Alors, que se passe-t-il?
Non, mais quand même des fluctuations quelques minutes.
Monstrueuses. Est-ce qu'il y a eu, c'est passé le mot sur le fait qu'il y avait encore beaucoup de hedge funds qui avaient, qu'on pouvait squeezer, là, pardonnez-moi l'expression. On verra les réponses, mais on ignore exactement ce qui se passe avec l'action de GameStop qui a une montée fulgurante à nouveau.
On va tout de suite aller rejoindre Emmanuel Latraverse pour sa chronique quotidienne. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, tu veux nous parler de ce nouveau mandat du ministre Benoît Charrette, qui en plus d'être ministre de l'Environnement, devient responsable de la lutte contre le racisme.
Oui, c'est comme s'il va avoir... son assiette est pleine, je pense, on peut dire. On s'entend là-dessus. Moi, je te dirais que, pour commencer, je sais que plusieurs groupes soulèvent des inquiétudes sur si c'est la bonne personne à nommer. Moi, je le dis, je trouve que M. Legault a fait preuve de courage en le nommant. C'est un peu audacieux et controversé de nommer un homme blanc dans le contexte actuel à la lutte contre le racisme. Mais ce que ça, la question que ça soulève, c'est est-ce que parce que tu es noir et en politique, ça devrait être ton dossier?
Mais c'est ce que m'a dit Christopher Skeed tout à l'heure, là. Il est le député de Sainte-Rose de la CAQ, qui dit exactement ça. Il dit, si on suit ce raisonnement-là, et ça veut dire que des gens comme moi, Lionel Kerman, Nadine Giraud, on peut plus jouer d'autres rôles. Faut qu'on soit juste dans un dossier d'immigration puis de racisme. On peut plus jouer toute une série de rôles dans le gouvernement, là.
Mais c'est une réflexion qui dit, ben là, dès que t'es de couleur, tu peux être instrumentalisé pour la cause de l'égalité. M. Carman, il n'est pas allé en politique parce que c'est un militant contre le racisme. Il est allé en politique pour s'occuper pour l'apprentissage, le retard scolaire, les enfants. Il en a plein les bottes avec la question de la santé mentale. Il va falloir qu'il donne une réponse au rapport Laurent sur la DPJ. Puis Mme Giraud, excuse-moi, elle est le visage du Québec à l'international. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Alors, moi, je dis bravo. J'ai surtout vu un homme qui a réfléchi à la question. Puis entre toi et moi, j'aime mieux... un homme blanc qui a réfléchi à la question que quelqu'un de couleur qui ne s'y intéresse pas. Je pense que c'est susceptible de donner plus de résultats. Mais ça soulève quand même une question sur le front de l'environnement. Parce que c'est supposé être une priorité. Je comprends que M. Charrette a réglé les gros écueils. Il a livré les deux grosses choses qu'il avait à livrer. Là. La consigne, le plan d'action sur le climat. Mais là, on a un gouvernement qui s'apprête à déposer un monumental plan de relance qui va vouloir relancer l'économie québécoise sur de nouvelles bases pour préparer l'économie de l'avenir, appelle ça comme tu veux. Et sa nomination, donc, survient un moment où il sera pas... il va être accaparé par d'autres dossiers. Donc, tu dilues l'environnement dans un moment où tu vas faire des choix économiques clés. Il va falloir naviguer avec prudence. Moi, c'est ça que je vais regarder bien davantage.
Ouais. Ça va être quand même... ça va rester un dossier qui va être sensible. T'sais, il va y avoir d'autres événements, il va y avoir d'autres moments. Et c'est quand même un ministre, comment dire... probablement pour ça qu'on l'a choisi aussi... Et c'est un ministre qui a un côté rassurant, c'est-à-dire qui mettons que t'as une crise, là, c'est jamais quelqu'un qui va mettre de l'huile sur le feu, hein.
Il y a pas les baguettes en l'air. T'sais?
C'est ça. Et ça, quand t'es dans un dossier quand même sensible, qui peut vite devenir explosif, T'sais, c'est peut-être le genre de ministre que tu veux aussi, le studieux, il fait pas de spectacle politique, il essaie jamais de trop en mettre, plutôt humble, mais en même temps articulé, le connaissant de ses affaires. Moi, je pense que c'est un peu ça, là. C'est un dossier quand même où François Legault, oui, il veut faire des choses, accomplir des choses, mais c'est aussi un dossier défensif pour la CAQ, là, où il sait que les groupes militants vont dire, ah, vous acceptez pas le concept de racisme systémique, puis la CAQ va tout être, toujours être un peu sous attaque.
Mais ce qui est intéressant, et son habileté à naviguer ces écueils-là, on l'a vu dans sa réponse sur l'affaire Camara à Montréal, où il a réussi à dire que ça l'inquiétait que ce soit du profilage racial, mais que les conclusions étaient encore pas là. Donc, que si ce l'était confirmé, il agirait. Tu sais, il a navigué sa réponse là-dessus de manière très habile, mais pas d'une manière langue de bois de politicien qui dit rien. Mais de quelqu'un qui a réfléchi, qui comprend, qui compatit, qui trouve que c'est une injustice, que c'est écœurant ce qui est arrivé à cet homme-là, que oui, ça se pose si c'est du profilage racial, mais qu'il faut quand même donner le temps à l'enquête de faire son temps et qu'il va agir en temps et lieu. J'ai vu un homme en maîtrise du dossier, moi. Et je pense que c'est cette habilité à naviguer ces écueils-là qui contribue probablement au choix de M. Legault de lui confier le dossier.
T'as quoi à dire de l'autre nomination? Vraiment, elle, celle-là, elle est moins connue, Mme Lecour, députée du comté des Plaines, qui devient ministre déléguée à l'économie. Je disais tout à l'heure à Paul Larocque, à LCN, pour moi, j'étais un peu sur mon appétit. C'est pas très clair, son mandat, hein?
Ben, son mandat, c'est beaucoup de s'occuper des PME, d'épauler M. Fitzgibbon. Écoute, moi, je pense que je vois là-dedans un signal politique du gouvernement. D'un gouvernement Legault qui dit à la population, regardez, là, je bonifie mon équipe économique pour avoir un trio. M. Fitzgibbon, la responsable des régions, je oublie son nom, là, mais qui n'est vraiment pas démarqué par...
Marie-Ève Proulx.
Ouais. Et puis, là, j'ajoute Mme Lecour. C'est une façon pour le gouvernement Legault d'envoyer le signal qu'il prépare l'après-COVID. Parce qu'entendons-nous, Mario, rendu en 2022, là, sur quoi il va être jugé, M. Legault? Il va être jugé sur son plan de relance, sur la reprise de l'économie,
ouais,
sur les emplois. Beaucoup plus que sur ce qui est arrivé dans la COVID.
Mais je dis pas qu'il n'y a pas du travail. Je dis pas qu'il n'y a pas du travail à faire. J'ai juste été étonné, mettons, d'entendre François Legault dire, ben, ils vont se réunir au cours des prochains jours, puis ils vont diviser les dossiers. Il me semble d'habitude, quand tu nommes des ministres, tu sais, t'as une vision claire, t'as des lettres de mandat, tu sais exactement pourquoi tu nommes un nouveau ministre, puis que ça va être quoi la délimitation de la responsabilité de cette nouvelle ministre versus l'autre ministre qui est déjà là, qui devient. Ça met. Moi, j'ai trouvé que c'était...
Ben, on comprend qu'elle va récupérer une partie des dossiers de Mme Proulx, là.
Oui, oui.
C'est évident qu'il ne livre pas la marchandise et qu'on veut laisser les coups des franges au super ministre plus grand que lui-même, qui est M. Fitzgibbon. Mais tu sais, si tu veux relancer l'économie sur de nouvelles bases, OK? Donc, tu veux préparer l'économie de demain. Donc, tu sais, c'est productivité. C'est quel levier économique tu mets en place? La réalité, c'est que c'est impressionnant, les gros deals, etc., c'est important, mais l'épine dorsale, quand même, de la création d'emplois, ce sont les PME. Donc, il faut que tu aies un ministre qui soit capable d'avoir vraiment très bien le pouls des besoins de ce secteur-là. Et moi, ce que j'en ai compris, c'est que ça va être beaucoup ça, son mandat à elle. On verra ce que ça donne, mais moi, j'ai avant tout vu dans sa nomination un signal politique que le gouvernement prépare déjà l'après-COVID.
Ouais, et ça, on se comprend que c'est... L'après-COVID, ça, étonnamment, ça va venir vite. Hein? On a l'impression, tu sais, que c'est long, qu'on n'en sort plus. Mais il y aura un moment où, tu sais, la vie est faite comme ça. À un moment donné, une histoire, tu tournes la page, elle est derrière toi. Ça va être un gigantesque souvenir, puis ça va avoir laissé des traces. Mais effectivement, une fois les commerces rouverts, l'histoire du jour, ça va être des restaurants sur le bord de la faillite, des commerces qui ont tellement perdu d'argent, qui sont tellement endettés, qui sont en difficulté. La discussion publique va vite changer. Beaucoup de vaccins à Montréal la semaine prochaine.
75 000 vaccins, tellement... Il y a quand même juste 42 000 personnes de 85 ans et plus. Alors, on s'apprête à ouvrir potentiellement dans le courant de la semaine prochaine les réservations de vaccins pour les personnes de 80 et plus. Donc, élargir la vaccination. Mais le premier test, c'est demain matin. Hein?
Oui.
Est-ce que les lignes vont tenir? Et je te promets qu'on retient son souffle parce que qu'est-ce qui est arrivé en Alberta ce matin?
Ah oui, ça a planté?
Le système a planté total. À tel point que les autorités de la santé publique l'ont reconnu très rapidement. En disant, écoutez, les lignes, les systèmes informatiques sont submergés. Ils fonctionnent, là, mais c'est difficile de réussir à percer là, le mur avec la petite horloge, là. Donc, continuez à essayer. En quelques heures, à peine, il y a eu 10 000 réservations.
Ben là, écoute, donc, demain, c'est inévitable. Les gens qui vivent enfermés depuis des semaines, des mois, tout à coup, ils voient l'espoir d'un peu de liberté et d'être protégés contre cette maladie qui les a fait damner. C'est impossible que les gens se garochent pas pour réserver demain matin.
On s'entend que si toi et moi, on a fait 85 ans, on serait debout, habillés, grêtés, prêts à partir à 7h30, puis on serait dans l'ordinateur pour rentrer dans le système à 8h. Hein?
C'est pas mal ça. Hey, merci, Emmanuel. Bye.
Au revoir.